Chapitre 9. Le dernier débat. Le matin se leva au lendemain de la bataille, beau, avec quelques nuages et un vent qui tournait à l'ouest. Légolas et Gimli se levèrent de bonne heure et ils demandèrent la permission de monter dans la cité, car ils étaient impatients de revoir Merry et Pipin.
« Il est bon de savoir qu'ils sont encore en vie, » dit Gimli, « car ils nous ont donné beaucoup de peine lors de la traversée du Rohan, et je ne voudrais pas voir tous ces efforts gaspillés. »
L'elfe et le nain entrèrent côte à côte à Minas Tirith, et les gens de la ville s'étonnèrent de voir pareils compagnons marcher ensemble. Car le visage de Légolas était d'une beauté sans égale chez les hommes, et il chantait une chanson elfe de sa voix claire dans le matin. Mais Gimli allait avec raideur à son côté, caressant sa barbe et regardant autour de lui les yeux écarquillés.
« Il y a de bons ouvrages de pierre ici, » dit-il en examinant les murs. « Mais il y en a également de moins bons, et les rues pourraient être mieux faites. Quand Aragorn recouvrera son bien, je lui offrirai les services des maîtres maçons de la montagne, et nous ferons de cette ville un objet de fierté. »
« Elle manque de jardin, » dit Légolas. « Ces maisons sont sans vie, et il y a ici trop peu de choses qui poussent et se réjouissent. Si Aragorn recouvre son bien, le peuple de la forêt lui apportera des oiseaux chanteurs et des arbres qui ne meurent point. »
Ils arrivèrent enfin devant le prince Imrahil, et Légolas le regarda et s'inclina, car c'était là assurément un homme qui avait du sang elfique dans les veines.
« Salut à vous, Seigneur, » dit-il. Il y a longtemps que les gens de Nimrodel ont quitté les bois de Lorienne, mais l'on peut voir encore aujourd'hui que tous n'ont pas quitté le havre d'Amroth pour faire voile vers l'ouest.
C'est ce qu'on dit dans la tradition de mon pays, dit le prince. Mais aucune des belles gens n'a été vue là-bas depuis un nombre incalculable d'années, et je m'étonne d'en voir une ici en ces temps de malheur et de guerre. Qu'êtes-vous venu chercher ?
Je suis l'un des 9 compagnons partis d'Imladris avec Mithrandir, dit Légolas. Et avec ce nain, qui est mon ami, j'ai suivi le seigneur Aragorn. Mais à présent, nous aimerions voir nos amis Meriadoc et Pérégrin, qui sont sous votre garde, nous dit-on.
Vous les trouverez aux maisons de guérison, et je vous y mènerai, dit Imrahil.
Il suffira d'envoyer quelqu'un pour nous accompagner, seigneur, dit Légolas. « Car Aragorn vous fait parvenir ce message. Il ne souhaite pas être revu dans la cité pour l'instant, mais il y a urgence pour que les capitaines se réunissent en conseil et il vous prie de descendre à ses tentes avec Éomer du Rohan, et ce, dès que possible. Mithrandir s'y trouve déjà. »«
Nous irons, » dit Imrahil. Et ils se séparèrent avec des mots courtois.
« Voilà un beau seigneur et un grand meneur d'hommes, » dit Légolas. Si le Gondor compte encore de ses gens en ces jours de déclin, sa gloire devait certes être grande au temps de son essor.
Et sans doute la bonne maçonnerie est-elle la plus ancienne, et fut-elle édifiée dans la première construction,
dit Gimli.
Il en va toujours ainsi de ce que les hommes entreprennent. Un gel survient au printemps, ou une flétrissure en été, et ils faillissent à leurs promesses.
Mais leur semence faillit rarement, dit Légolas. Elle pourrira dans la poussière, pour mieux ressurgir en des temps et des endroits inattendus. L'œuvre des hommes continuera au-delà de notre époque, Gimli.
Et n'aboutira en fin de compte qu'à des espoirs déçus, je suppose,
dit le nain.
À cela, les elfes ne savent pas la réponse, dit Légolas.
Sur ce, le serviteur du prince arriva pour les accompagner jusqu'aux maisons de guérison. Ils trouvèrent leurs amis dans le jardin, et leurs retrouvailles furent des plus joyeuses. Ils se promenèrent et bavardèrent un peu, goûtant pour un court moment la paix et la tranquillité du matin sous le ciel venteux des hauts cercles de la cité. Puis, quand Merry se fatigua, ils allèrent s'asseoir sur le rempart qui tournait le dos à la pelouse des maisons de guérison. Et là, toute la partie sud de l'Anduin miroitait au soleil en s'éloignant, hors de la vue même de Légolas, vers les vastes plaines et les verts horizons du Lébénine et de l'Ithilienne du Sud. Mais pendant que les autres continuaient de parler, Légolas devint silencieux, et il regarda au loin dans le contre-jour. Et il vit alors,
remontant le fleuve, des oiseaux de mer au plumage blanc.
« Regardez !» s'écria-t-il. « Des mouettes ! Elles volent loin dans les terres. Une merveille à mes yeux et un trouble pour mon cœur. Jamais de ma vie je ne les avais vues avant d'arriver à Pelargir, et je les entendis là-bas crier dans l'air tandis que nous allions à cheval vers la bataille des navires. Alors je restais quoi, oubliant la guerre en terre du milieu, car leur voix plaintive me parlait de la mer. La mer, hélas, je ne l'ai pas encore contemplée. Mais au plus profond du cœur des miens réside la nostalgie de la mer qu'il est périlleux de remuer. Hélas, pour les mouettes, plus jamais je ne serai en paix sous le hêtre ou sous l'orme.
Ne dis pas cela, répondit Gimli. Il reste encore une infinité de choses à voir en terre du milieu et de grandes œuvres à accomplir. Mais si toutes les belles gens prennent le chemin des Havres, ce sera un triste monde pour ceux qui sont condamnés à rester.
Triste et ennuyeux, et comment ? Dit Merry. Il ne faut pas aller au Havre, Légolas. Il y aura toujours des gens, grands ou petits, et même quelques nains avisés comme Gimli, qui auront besoin de vous. Du moins, je l'espère. Même si j'ai plutôt l'impression que le pire est encore à venir dans cette guerre. Comme j'aimerais que tout soit fini, et bien fini.
Ne sois pas si sombre, s'écria Pipin. Le soleil brille, et nous voilà réunis pour au moins un jour ou deux. Je veux en savoir un peu plus long sur ce qui vous est arrivé. Allons, Gimli. Cela fait bien une douzaine de fois depuis ce matin que vous évoquez, Légolas et vous, votre étrange voyage avec l'arpenteur. Mais vous ne m'en avez encore rien dit.
Ici, le soleil brille peut-être, répondit Gimli. Mais il y a des souvenirs de cette route que je ne souhaite pas rappeler des ténèbres. Si j'avais su ce qui m'attendait, je crois que pour aucune amitié je ne me serais engagé sur les chemins des morts.
Les chemins des morts ? Dit Pipin. J'ai entendu Aragorn mentionner cela. Et je me demandais de quoi il parlait. Vous ne voulez pas nous en dire plus ?
Pas volontiers, dit Gimli. Car sur cette route, je me suis couvert de honte. Gimli, fils de Gloïn, qui se croyait plus solide que les hommes et plus hardi sous terre qu'aucun elfe. Mais je n'ai été ni l'un ni l'autre. Et si j'ai pu continuer ma route, c'était par la seule volonté d'Aragorn.
Et par amour pour lui, dit Légolas. Car tous ceux qui viennent à le connaître en viennent aussi à l'aimer d'une manière qui lui est propre, même la froide jeune femme des Rohirrim. Le matin était pâle quand nous avons quitté Dunhart, la veille du jour où vous y êtes arrivés, Merry. Et tous étaient pris d'une telle peur que nul ne voulait assister à notre départ, sauf la dame Eowyn, qui aujourd'hui est alitée ici dans cette maison. Cette séparation lui fut une grande peine, et j'ai été peiné d'y assister.
Hélas! Mes seules pensées étaient pour moi-même, dit Gimli. Non, je ne parlerai pas de ce voyage.
Il s'enferma dans le silence. Mais Pipin et Merry étaient si avides de nouvelles que Légolas finit par ajouter « Je vous en dirai assez pour vous apaiser, car je n'ai pas ressenti l'horreur, pas plus que je n'ai craint les ombres des âmes, frêles et impuissantes comme elles me paraissaient. » Il leur parla alors rapidement de la route hantée sous les montagnes, du sombre rendez-vous à Erek et de la grande chevauchée, longue de 80 lieues et 13, jusqu'à Pelargir sur Anduin. 4 jours et 4 nuits, et au cœur d'un 5e jour, avons-nous chevauché depuis la pierre noire, dit-il. Et voici, l'espoir grandit en moi dans les ténèbres du Mordor. Car à la faveur de l'obscurité, l'armée ombreuse parut devenir plus forte et plus terrible à voir. J'en vis certains à cheval et d'autres à pied, mais tous allaient pourtant d'un même pas, à vive allure. Ils étaient silencieux, mais dans leurs yeux se voyait une flamme. Ils rejoignirent notre cavalerie dans les hautes terres du Lamédon, nous doublant par le flanc. Et ils nous eussent dépassés si Aragorn ne les en avait empêchés. Ils se retirèrent à son commandement. Même les ombres des hommes se plient à sa volonté, me dis-je. Peut-être finiront-elles par servir ses besoins. Nous chevauchâmes un jour dans la lumière, puis vint le jour sans aube et nous continuâmes, traversant la Kyril et le Ringlo. Et le 3e jour, nous arrivâmes à Limir, au-dessus de l'embouchure de la Gilrain. Là, des hommes du Lamédon disputaient les guets à de féroces combattants d'Umbar et du Harad qui avaient remonté la rivière dans des navires. Mais tous, défenseurs et assaillants, abandonnèrent la lutte et s'enfuirent à notre approche, criant que le roi des morts était sur eux. Seul Angbor, seigneur du Lamédon, eut le courage de nous attendre. Et Aragorn le pria de rassembler ses gens et de nous suivre s'il l'osait, quand l'armée grise serait passée. « À Pelargir, l'héritier d'Isildur aura besoin de vous, » dit-il. Ainsi nous franchîmes la Gilraine, chassant les alliés du Mordor en déroute devant nous. Puis nous nous reposâmes un court moment. Mais Aragorn se dressa bientôt, disant « Oyez, Minas Tirith est déjà assaillie. Je crains qu'elle ne tombe avant que nous ne venions à son secours. » Nous fûmes donc de nouveau en selle avant la fin de la nuit et nous poursuivîmes notre route avec toute la rapidité que nos chevaux étaient capables d'endurer à travers les plaines du Lebelin.
Légolas s'arrêta et soupira. Puis, tournant son regard vers le sud, il se mit à chanter doucement.
« De la Kélos à l'Erui coule l'argent des rivières, dans les champs verts du Lebelin. L'herbe y pousse longue et haute au vent de la mer, le blanc lisse se balance, et l'or dodelinant des clochettes du Malos et de l'Alphirine, dans les champs verts du Lebenin, au vent de la mer. Ces chants sont verts dans les chansons de mon peuple, mais ils étaient sombres alors, des déserts gris dans les ténèbres devant nous. Et à travers les vastes terres, foulant insoucieusement l'herbe et les fleurs, nous pourchassâmes nos adversaires pendant une nuit et un jour, avant d'atteindre le grand fleuve, enfin. Je songeais alors en mon cœur que nous approchions de la mer, car les eaux paraissaient larges dans l'obscurité et d'innombrables oiseaux de mer criaient sur les rives. Hélas pour la plainte des mouettes, la dame ne m'avait-elle pas averti d'y prendre garde? Et maintenant, je ne puis les oublier.
Pour ma part, je n'y fis pas attention, dit Gimli, car nous étions alors à pied d'œuvre. Le vrai combat allait s'engager. À Pelargir était amarré le gros de la flotte d'Umbar, une cinquantaine de grands navires et un essaim de plus petits vaisseaux. Bon nombre de fuyards avaient atteint les havres avant nous, amenant leur peur avec eux, et certains navires avaient appareillé pour descendre le fleuve ou gagner la rive opposée. Et un grand nombre des plus petites embarcations étaient en flammes. Mais les Aradrim, maintenant aux abois, firent volte-face, féroces dans leur désespoir. Et ils rirent en nous voyant, car ils formaient encore une grande armée. Mais Aragorn fit halte et cria d'une voix forte. « Maintenant, venez, par la pierre noire, je vous appelle !» Et soudain, l'armée ombreuse, jusque-là restée en arrière, monta enfin telle une marée grise, balayant tout sur son passage. J'entendis des cris étouffés, une faible sonnerie de cor et un murmure de voix lointaines, très nombreuses, comme l'écho d'une bataille oubliée il y a longtemps dans les années sombres. De pâles lames furent tirées, mais je ne saurais dire si elles mordaient encore, car les morts n'avaient plus besoin d'aucune arme, autre que la peur. Nul ne leur résistait. Ils assaillirent tous les bateaux tirés à sec, puis ils passèrent sur l'eau vers ceux qui étaient au mouillage. Et tous les marins furent pris d'une terreur folle et se jetèrent par-dessus bord, sauf les esclaves enchaînés aux rames. Sans peur, nous chargeâmes contre l'ennemi en déroute, dispersant ses soldats comme autant de feuilles mortes jusqu'à atteindre la rive. Alors, dans chacun des grands navires qui restaient, Aragorn envoya l'un de ses Dúnedain, et ils rassurèrent les captifs qui s'y trouvaient et leur prièrent d'écarter la peur et d'être libres. Avant la fin de ce sombre jour, il ne restait aucun ennemi pour s'opposer à nous. Tous s'étaient noyés ou enfuis vers le sud dans l'espoir de rejoindre leur propre pays à pied. Quant à moi, je trouvais étrange et merveilleux que les desseins du Mordor aient été déjoués par ces spectres de peur et de ténèbres. Il fut battu par ses propres armes.
Étrange, oui, dit Légolas. Et quand je vis Aragorn à ce moment, j'imaginais le grand et terrible seigneur qu'il eût pu devenir de par sa volonté toute puissante s'il s'était approprié l'anneau. Ce n'est pas pour rien que le Mordor le craint, mais son esprit est plus noble que Sauron ne peut l'envisager. Car n'est-il pas l'un des enfants de Lúthien? Jamais cette lignée ne s'éteindra, dussent les années s'allonger indéfiniment.
De telles prédictions sont au-delà de la vue des nains, dit Gimli. Mais Aragorn était certes puissant ce jour-là. Voyez, toute la flotte noire était entre ses mains. et il prit pour lui le plus grand navire, et il embarqua. Alors, il fit sonner un grand concert de trompettes prises à l'ennemi, et l'armée ombreuse se retira sur la grève. Elle se tint là, en silence, à peine visible, sauf pour un reflet d'yeux où l'on pouvait voir le rougeoiement de l'incendie des navires. Et Aragorn s'adressa aux hommes morts d'une voix impérieuse, disant « Entendez les paroles de l'héritier d'Isildur. Votre serment est accompli. Partez et ne troublez jamais plus les vallées. Allez trouver votre repos. » Là-dessus, le roi des morts se tint devant son armée et il brisa sa lance et la jeta au sol. Puis il s'inclina et nous tourna le dos, et bien vite toute l'armée grise se retira et s'évanouit comme une brume chassée par un vent soudain. Et il me sembla être tout juste sorti d'un rêve. Cette nuit-là, nous nous reposâmes pendant que d'autres s'affairaient, car de nombreux prisonniers furent relâchés, et de nombreux esclaves libérés, qui étaient des gens du Gondor pris dans des incursions. Et bientôt, il y eut aussi un grand concours d'hommes venus du Lébénine et de l'Éthir, et Angbor du Lamédon, avec tous les cavaliers qu'il avait pu rallier. La peur des morts étant écartée, tous ces hommes étaient venus pour nous prêter main forte et voir l'héritier d'Isildur, car la rumeur de ce nom avait couru comme des flammes dans le noir. Et c'est bientôt la fin de notre histoire, car tout au long de la soirée et de la nuit, on procéda à l'avitaillement et à l'armement de nombreux vaisseaux, et la flotte appareilla le lendemain. Tout cela paraît bien loin à présent. Pourtant, c'était seulement avant-hier au matin, 6 jours après notre départ de Dunhart. Mais Aragorn était poussé par la crainte d'arriver trop tard. « Il y a 42 lieues d'ici au quai du Harland, » dit-il. « Mais nous devons y être demain ou échouer tout à fait. » Les navires étaient manœuvrés par des hommes libres à présent, et ceux-ci ramaient avec cœur. Mais nous cheminâmes assez lentement sur le grand fleuve, car nous allions à contre-courant, et si les eaux dans le sud ne sont pas tellement vives, nous n'avions l'aide d'aucun vent. J'aurais eu le cœur bien lourd, malgré notre victoire éclatante au Havre, si Legolas ne s'était pas mis à rire tout à coup. « Relève la barbe, fils de Durin !» me dit-il. « Car ainsi va l'adage. Du désespoir, souvent, l'espoir renaît. » Mais quel espoir il voyait au loin, il ne voulut pas le dire. La nuit qui vint ne fit qu'épaissir les ténèbres, et nos cœurs s'enflammèrent, car loin dans le nord, une lueur rouge couvait sous la nuée, et Aragorn dit « Minas Tirith brûle ». Mais à la minuit, on sentit bel et bien l'espoir renaître. Les hommes de mer de l'Éthir, contemplant le sud, parlait d'un changement à l'horizon, d'un vent frais venu du large. Bien avant le jour, les navires matés hissèrent les voiles et nous prîmes de la vitesse, jusqu'à ce que l'aube blanchît l'écume à nos proues. Et c'est ainsi que, comme vous le savez, nous arrivâmes à la 3e heure du jour sous un vent favorable et un soleil renouvelé, et nous déployâmes le grand étendard devant la bataille. Ce fut un grand jour et une heure glorieuse, quoi qu'il advienne.
« La valeur des hauts faits n'est pas diminuée, quoi qu'il arrive ensuite, » dit Legolas. « Ce fut une grande prouesse que la chevauchée des chemins des morts, et elle le demeurera, dût-il ne rester personne au Gondor, pour en chanter la louange dans les jours qui viendront. »«
Et il y a lieu de le craindre, » dit Gimli, « car les visages d'Aragorn et de Gandalf sont graves. Je me demande bien quel genre de conseils ils prennent en ce moment, là en bas, dans les tentes. » Comme Merry, je voudrais que notre victoire signale la fin de la guerre. Mais qu'importe ce qui reste à accomplir, j'espère y prendre part, pour l'honneur de la montagne solitaire.
Et moi pour le peuple du Grand Bois, dit Legolas, et pour l'amour du Seigneur de l'Arbre Blanc. Sur quoi, les compagnons se turent. Mais ils restèrent assis un moment en ce haut lieu, chacun à ses réflexions, pendant que les capitaines débattaient.